Ce matin, nous parlons de trouver la sérénité. Et il me semble que dans cette troisième semaine, il y a... dans la première semaine, le premier jour, on a vu les perspectives sur le bonheur. Et tout ça était un peu laborieux, un peu difficile, il fallait le poser. Et dans cette troisième semaine, on est en train de voir ponctuellement ces différents éléments sur le bonheur. On a vu déjà donc ce que c'est que la paix avec l'Épître aux Romains, ces 12 mentions de la paix. On a vu comment vraiment entrer dans la liberté dans l'Épître aux Galates, être conduit par l'Esprit, en avoir le fruit de l'Esprit, de manière simple. Il n'y a pas d'effort pour avoir le fruit de l'Esprit si on est justement conduit par lui. On a vu dans l'Épître aux Philippiens comment regarder aux circonstances, bien que cette estimation, ce regard ne soit pas tellement expliqué dans Philippiens, mais finalement... En s'ouvrant au Seigneur et en étant encore une fois dirigé par l'Esprit, on rentre dans tout cela. On a vu dans Colossiens comment trouver la satisfaction avec le fait d'être rempli en Christ, Colossiens 2:10, et le fait de étant plein de la volonté de Dieu, du discernement de la volonté de Dieu. Alors on fait, on marche. On réalise, on marche, on réalise, on n'est pas jugé, on est dans le prix, mais on veille et on marche, etc. Et donc on est satisfait. Donc voilà quatre choses que nous avons vues. Aujourd'hui, ce matin, c'est la sérénité, cet après-midi, c'est l'amour qu'on verra. Comment accéder à tout cela. Et j'ai noté ce passage de Jérémie 13, verset 22. « Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme une femme qui enfante ?» Et si tu dis en ton cœur, pourquoi me sont arrivées ces choses? Et c'est très, très étonnant de voir comment dans notre société, notre civilisation moderne, on fait énormément pour éluder la souffrance, pour l'éviter, alors qu'on devrait y faire face. En Matthieu 6, 28, je crois, je le dis de mémoire, le Seigneur Jésus dit « Pourquoi êtes-vous en souci ?» Autrement dit, cette question-là, elle c'est pas une question de l'Ancien Testament. C'est une question qui revient et nous avons à nous poser des questions quand ça ne va pas. C'est pour ça que, je le répète, dans l'accompagnement, voilà les trois clés, vous ne direz pas que je ne vous en ai pas parlé. Première clé, c'est donc de permettre à quelqu'un d'exprimer la souffrance. Ce qui fait que chaque fois que quelqu'un va venir nous voir ou chaque fois que quelqu'un va nous parler sur le mode de l'accompagnement, il va être forcément plus mal qu'avant. Waouh ! Eh oui. Il va être plus mal qu'avant parce qu'en fait, on va lui permettre de faire face aux souffrances. Moi, j'ai une personne qui a mis un an pour arrêter de me maudire. Voilà. Ouais, elle me l'a dit. Voilà. Parce qu'en fait, je remettais devant ses yeux quelque chose qu'elle ne voulait pas voir. Et oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut en être libéré ou pas? Si on veut en être libéré, il faut forcément le poser sur la table. Et faire donc la différence entre l'objet de notre souffrance et les palliatifs. Il y a des gens que je ne citerai pas qui boivent beaucoup de carthagène. Pierre qui rigole, mais... Et donc, le problème de l'alcool n'est pas le problème, en fait. La question, c'est pourquoi je bois de l'alcool. La question, c'est qu'est-ce que je cherche à compenser quand je bois d'alcool, ou quand je vais faire du vélo, ou quand je fais une collection de timbres, ou quand je vais faire du footing, ou quand je me place devant la télévision, ou etc. Qu'est-ce que je veux oublier? qu'est-ce que je veux compenser, de quoi est-ce que je veux me soustraire, en fait. Et ce mécanisme compensatoire, c'est une vraie plaie. Il faut arrêter de parler, les gens dissipés. Hein? C'est une vraie plaie. Soyez un peu là-dedans. C'est une vraie plaie, le mécanisme compensatoire. On ne se rend pas compte à quel point on est touché par le mécanisme compensatoire. On ne se rend pas compte. Nous sommes tous touchés. Nous sommes tous concernés, en fait. Hein, on peut dire, quand je... comment dire on se dit tous, hein, je suis allé acheter un petit truc, ça m'a fait du bien. Mécanisme compensatoire. Je suis allé chez le coiffeur, je me sens mieux. Mécanisme compensatoire. Hein? Je suis allé à l'assemblée, à l'église, je me sens mieux. C'est un mécanisme compensatoire. Hein? Je veux dire que et quand on dit, par exemple, ce matin je n'ai pas lu la Bible et je m'en veux, on va induire un mécanisme compensatoire que quand on aura lu la Bible, on risque d'être bien, mais pourquoi ? Sur un principe de loi, pas sur un principe de réalité. Les mécanismes compensatoires, c'est une plaie, en fait. Hein? Et ce mois-ci, on a réussi à mettre 500 euros sur le compte épargne. Eh oui, mais attention aux mécanismes compensatoires. Hein? Attention à ne pas construire notre bonheur avec des palliatifs qui sont de la en boîte. Eh oui. Hein? Et alors là, je place l'idéal très haut. Mais il n'est pas très haut, c'est notre vie chrétienne, en fait. C'est notre cap journalier, en fait. Et le travail dans la première colonne des trois clés, définir la souffrance, c'est un travail très important dans lequel on va faire du ménage dans les souffrances. Et on va aider la personne en définissant ses souffrances à comprendre à quel point ces mécanismes compensatoires ne sont pas bons. Ça peut prendre beaucoup de temps. Une fois qu'on exprime la souffrance, il y a donc les causes de la souffrance. Vous voyez que j'ai mis un peu plus de choses là, à définir. Les buts, les réactions, les opinions, ce que j'appelle les pensées associées. Et donc, finalement, la responsabilité que nous avons à réagir. Il y a des gens qui disent, moi, je suis comme ça, je ne peux pas m'empêcher de réagir. Je ne peux pas m'empêcher de parler, je ne peux pas m'empêcher de, etc. Ça, c'est un... C'est finalement une sorte d'emprisonnement. Non, je peux très bien me taire, parler. Alors, c'est sûr qu'une habitude, ça prend du temps, on l'a vu hier soir. Et donc, à partir de la pensée associée, on va définir la volonté de Dieu, ce que j'appelais l'ancrage, et ici, les domaines de fragilité à explorer. J'ai un petit couac dans la présentation. Hein, voilà, 3 bis, les domaines de fragilité à explorer. Alors, dans cet ensemble d'états d'âme que je vis, il y en a des douloureux dans mon ciel intérieur qui sont frustration, colère, insatisfaction, fébrilité. Qu'est-ce qui manque ? La peur, oui. Et la tristesse. Voilà. Et donc, si on regarde, parce qu'on va faire l'épître de Pierre, si on regarde ce que Pierre a vécu, alors, il a été obligé, non. Il a demandé à Jésus de guérir sa belle-mère. Hein, il a été gentil avec la belle-mère quand même, hein. Il a eu peur de marcher sur les eaux. Matthieu 14, 29. La fièvre de la belle-mère, c'est Matthieu 8, 14. Il a repris Jésus quand Jésus lui a dit « Quelqu'un m'a touché ». Hein ? Que Jésus était dans la foule, hein, cette femme qui avait des pertes de sang, hein, elle touche Jésus. Et Jésus dit « Quelqu'un m'a touché ». Pierre dit à Jésus « Mais enfin, tu es dans la foule et tu dis « Quelqu'un t'a touché ». Qu'est-ce qu'il a dû ressentir ? Dans Luc 8, 45. Pierre dit à Jésus, nous t'avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Autrement dit, Pierre est en train de se justifier. Pierre est en train d'argumenter par rapport à un cadre qui lui paraît très, 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 très cohérent. Et il est un peu fébrile, hein. Il a envie de bien retomber sur ses pattes et de montrer à Jésus que, quelque part, les choses ne vont pas. Il a dit à Jésus qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, le choisi pour régner. En attendant, j'ai un peu l'impression que Pierre, il est un petit peu au-dessus de là où il devrait être. Il y a des gens... Ils pensent que quelque part Dieu a tort. Il y a des gens qui sont en colère contre Dieu. Je suis étonné dans la pratique pastorale de voir ça. Moi je dis à ces gens-là, mais vous prenez des gros risques là, être en colère contre Dieu. Reprocher quelque chose à Dieu, dire que Dieu fait mal les choses, mais il vaut mieux pas croire en Dieu que de dire que Dieu fait mal les choses. Quand Jésus annonce ses souffrances, Matthieu 16, 22, Pierre dit, cela ne t'arrivera point. Pierre, il en a pris sur le museau. Hein. Hein, Pierre, c'est un impétueux, et c'est certainement, les évangiles nous racontent, avec une volonté de parler de tout le monde et de montrer de manière... précise et équilibrée ce que tout le monde a fait. Alors Pierre, c'est celui qui a fait le plus de bêtises. Quand les percepteurs des impôts viennent, c'est à Pierre qu'ils viennent. Votre père, votre maître, ne paye-t-il pas les 10 drachmes ? Est-ce qu'il paye les impôts ? Pierre, il a dû encore recevoir ça, en fait, et... C'est Pierre qui dit à Jésus, « Je ne te renierai point. » Matthieu 26, 35. Les 10 drachmes, c'est Matthieu 17, 24. Sur la montagne, la transfiguration. Non. Oui, j'en ai pas parlé, la montagne de la transfiguration. C'est Pierre qui dit, « Faisons 3 tentes. Hein, » donc là, c'est pas sur le... C'est en Matthieu 17. Et après, dans le en Gethsémané, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean à part, et quand il revient, il les trouve dormants, et il dit à Pierre. On a vraiment l'impression que le pauvre Pierre, hein, voilà, c'est Pierre qui coupe l'oreille de l'esclave en Jean 18, 10. C'est Pierre qui renie en Matthieu 26, 75. C'est Pierre qui est restauré en Jean 21, 15. Et c'est Pierre qui dit à l'égard de Jean, et lui, que lui arrivera-t-il ? C'est Pierre qui se compare. Et j'ai voulu, avec tout ça, montrer, avec cette expression de Luc 22, je ne me souviens pas le verset, verset 30 à peu près, quand Jésus dit à Pierre, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Quand tu seras revenu, eh bien, on pourrait dire que tout ça, si ça nous arrivait, en fait, hein, imaginez, hein, nous sommes Pierre, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse la tête ? Quand on va se dire bonjour, on baisse la tête ? Ou au contraire, on dit « Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis l'apôtre Pierre, c'est moi. » Qu'est-ce qu'on fait ? On baisse la tête ou au contraire, on dit « Voilà, vous savez,
J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je suis revenu de tout ça. Voilà.
Voilà. C'est ça l'expérience. C'est là où il n'y a pas de chemin raté dans la vie. Et c'est Pierre qui a écrit les deux lettres de Pierre. Et sa première lettre, c'est justement l'obéissance dans la souffrance. Voilà.
C'est ça qui l'a sauvé, en fin de compte.
Oui. Alors, vous reconnaissez un petit peu cette espèce de schéma, là. Hein? Ça, c'est notre ciel intérieur, en bleu, avec ce qui devrait être participant de notre bonheur. Et en rouge, c'est ce qui est participant de notre malheur. En bleu, c'est les six émotions agréables, en rouge, les six émotions désagréables. Tout cela étant continuellement dans notre ciel intérieur. Et les émotions désagréables, c'est comme les nuages. C'est riche. Si ça ne pleut pas, c'est le désert. Alors, l'expérience de Pierre dans sa lettre, c'est... On va faire un survol des cinq chapitres. C'est premièrement 1 Pierre 1,7. J'accepte l'examen. Et il va dire l'épreuve. L'examen. L'épreuve. Hein, l'épreuve dans le sens d'examen. L'épreuve de notre foi qui est bien plus précieuse que l'or qui périt. Autrement dit, quand on passe l'or dans le creuset et qu'on le fait fondre, c'est pour le purifier. Autrement dit, chaque fois que on a quelque chose de difficile qui se présente, chaque fois que, par exemple, vous rencontrez Guillaume en tête à tête, alors il y a quelque chose de douloureux. Et tout ce qui est douloureux, le deuil, la maladie, la vie d'église, l'incompréhension, etc. Tout ça, ce sont des tremplins, en fait, pour qu'on sache où en est notre foi. Alors, notre problème, c'est que nous, chaque fois qu'on voit un tremplin, on dit, oulala, il est où le chemin pour passer à côté? En fait, c'est ça notre problème, en fait. Hein? En premier lieu, l'expérience de Pierre... C'est, voilà, cette souffrance que nous vivons, en fait, c'est l'examen de notre foi. Et je vais simplement relire ce qui entoure ce verset 7. Hein, il dit, étant affligé, verset 6, maintenant, pour un peu de temps par diverses épreuves, perasmos en grec, épreuve, c'est-à-dire en fait difficulté. Et il dit... Si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, c'est dokimazo l'épreuve, c'est-à-dire qu'en fait c'est la manifestation, c'est l'examen, le baccalauréat, on est d'accord, hein? Donc il dit que les perasmos, les difficultés, sont là pour que le baccalauréat de notre foi soit réussi. Deuxième réalité de Pierre dans sa lettre, dans sa première lettre, c'est 1 Pierre 2, 23, je reconnais Dieu comme juste juge. Autrement dit, quand quelqu'un me blesse, alors au verset 21, il dit, Christ a souffert nous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces, et au verset 23, lequel, quand on l'outrageait, il ne rendait pas l'outrage, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Autrement dit, dans la colère que Pierre peut ressentir, dans cette contrainte que quelqu'un peut éventuellement lui imposer, hein, la frustration, la colère, alors il dit, mais une deuxième manière qu'il propose, c'est je reconnais Dieu comme juste juge. Qu'est-ce qui se passe quand je reconnais Dieu comme juste juge? C'est qu'en fait, ma colère, en fait, elle aboutit dans le juste jugement de Dieu. Ce que l'autre fait mal, ce que l'autre me fait mal, dans la mesure où l'autre me fait mal, ce que l'autre fait de mal à l'église dans laquelle je suis, à ma famille, dans mon travail, alors Dieu est juste juge. Et je rappelle, pour le chrétien, Dieu a jugé à la croix, Dieu discipline dans le ministère de l'Esprit, Dieu rendra les récompenses au tribunal de Christ, pour le non-chrétien, pour le chrétien. Pour le non-chrétien, Dieu exerce le ministère de l'Esprit, l'Esprit de Dieu convainc le monde de péché, Jean 16, verset 9, et Dieu jugera les hommes, Apocalypse 20, verset 11, au jugement dernier. Autrement dit, Dieu est juste juge. Et quand ma colère n'aboutit pas, c'est que je ne me rends pas assez compte que Dieu est juste juge. Voilà. Troisième point dans l'épître de Pierre, troisième chapitre. On va lire 1 Pierre 3, 14 et aussi le verset 17. Il est dit au verset 14, « Si vous souffrez pour la justice, vous êtes bienheureux. » Verset 17, « Il vaut mieux, si la volonté de Dieu le voulait, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Donc, si la volonté de Dieu le voulait, c'est la question de la souveraineté de Dieu. Mais souffrir en faisant le bien, d'accord. Mais souffrir en faisant le mal, non. Vous êtes bien heureux si vous souffrez pour la justice. Autrement dit, non seulement si la volonté de Dieu le voulait, je reconnais Dieu comme souverain, mais ce n'est pas la bêtise, en fait, qui fait que je souffre. Je fais attention à la motivation, pourquoi je souffre. Vous comprenez pourquoi j'ai fait ces trois clés, hein, discerner la souffrance, ensuite les pensées associées, pourquoi je souffre, et ensuite la volonté de Dieu. Chapitre 4, verset 1, « Armez-vous de cette pensée que celui qui a souffert du péché s'est reposé du péché. » De qui est-ce qu'il parle? Il parle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ s'est reposé du péché quand? Quand il est mort. Waouh! Autrement dit, il y a tout un moment de notre vie pendant lequel, on souffre du péché, on souffre de la médiocrité, on souffre de notre médiocrité, on souffre de la médiocrité des autres, et le Seigneur Jésus a souffert. Mais je sais que ça, c'est la construction de la vie, et je suis armé de l'exemple du Seigneur. Au lieu de dire « Non, je ne peux pas le suivre », c'est réservé pour les missionnaires. Et en 1 Pierre 4, verset 13, et au verset 16, on reprend cette même idée. Au verset 13, « En tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous. » Alors, heureusement qu'on a fait Philippiens hier. Qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire se réjouir. Autrement dit, estimer que ces souffrances de Christ ont une valeur dans la main de Dieu. Verset 16, il est dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Voilà. Pourquoi honte? Parce que la honte, c'est un mélange de colère et de peur. Quand j'ai honte, je suis en colère contre ce que j'ai fait et j'ai peur qu'on le voie. Et donc, si quelqu'un souffre comme chrétien, peut-être qu'on va dire, ah mais toi, tu comme chrétien, tu souffres, donc tu dois avoir péché, sûrement. Hein, donc, je suis en colère contre quelque chose que je pense ou contre quelque chose à cause de ce que je pense contre quelque chose qui m'arrive. Je suis en colère. J'ai peur qu'on me dise, mais tiens, mais il t'arrive ça, donc ça montre bien que ça ne va pas dans ta vie. Au verset 19 d'1 Pierre 4, on a vu ce passage. Déjà, remettez vos âmes à un fidèle Créateur en faisant le bien. Voilà, en général, au chapitre 4, hein, ce que Pierre montre de son expérience à l'égard du combat pour le Seigneur Jésus. Hein, il dit, voilà, on est dans le combat et on ne peut pas s'en soustraire. Il le dit au chapitre 5, verset 1, il est témoin des souffrances du Christ. Et il nous appelle à, dans un sens, à ne pas fuir. Il dit au verset 9 du chapitre 5, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Donc, vous n'êtes pas une victime. Hein, vous êtes... voilà. Et on se souvient que Pierre écrit à ceux de la dispersion. Et ceux de la dispersion, ça, c'est certainement ces juifs, mais aussi peut-être ces chrétiens, mais les juifs qui ont été victimes des persécutions qui ont eu lieu de différentes manières avant la destruction finale de Jérusalem. Et il va conclure en disant finalement, il y a des souffrances, un Pierre 5, 10, je souffre pour un peu de temps, quand vous aurez souffert pour un peu de temps, dit-il. Et donc l'idée, je veux être peinard, elle n'est pas bonne. On l'a vu avec le livre de Job, hein, « Je veux être peinard », c'est la deuxième mauvaise idée de Job. Première idée, Job 3, verset 10, « Je ne veux pas voir la misère ». Deuxième idée, « Je veux être peinard ». Troisième idée, « Je veux contrôler ma vie ». « Je veux être peinard » au verset 13, « Je veux contrôler ma vie » au verset 24. Dans la première épître de Pierre, on voit donc qu'il y a 12-13 mentions du mot souffrance et qu'il y a 6 mentions du mot obéir. Et il me semble que obéir dans la souffrance pourrait être vraiment un thème conducteur de l'épître de Pierre. Si on regarde les mentions sur l'obéissance, on voit qu'on est élu selon la préconnaissance de Dieu. Là, vous remarquerez que nous ne sommes pas prédestinés. La prédestination se fait, il en est question 3 fois dans le Nouveau Testament. En Romains 8, 29, nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. En Éphésiens 1, 4, nous sommes prédestinés à être adoptés. Et en Éphésiens 1, 11, nous sommes prédestinés à être héritiers. Voilà les 3 seules mentions, d'après ce que mes recherches et d'après ce dont je peux me souvenir, de la prédestination. Autrement dit, les chrétiens sont prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, c'est-à-dire à la fois humains et spirituellement vivants. Romains 8, 29, prédestiné à être conforme à l'image de son Fils. Éphésiens 1, 4, prédestiné à être adopté. Et Éphésiens 11, prédestiné à être héritier. Autrement dit, le chrétien a un destin tracé d'avance, mais qui ne concerne que On pourrait dire la constitution de son être, pour faire court, comme un corps âme esprit, être intérieur, être extérieur. On peut le voir de différentes manières. C'est Romains 8, 29. Être adopté, on fait partie de la famille de Dieu, et être héritier. Mais je ne suis pas prédestiné à être avec vous ce matin. Voilà. Je suis élu selon la préconnaissance de Dieu. Bon. Mais pour être élu, il faut s'être présenté. C'est pas compliqué. Voilà. Hein, donc, en fait, l'élection de Dieu n'est pas un choix arbitraire de gens qui ne voudraient pas. Hein, je suis élu. Voilà. Et donc, je suis élu en sainteté de l'esprit, autrement dit, dans cette capacité que Dieu me donne d'être en face à face à lui. Parce que Dieu connaît les choses à l'avance. Dieu sait à l'avance que je me présente, en fait. Comme Dieu savait à l'avance que Jacob, dans un sens, dirait oui, alors que Ésaü dirait non. C'est la préconnaissance. Mais Dieu n'a pas forcé Ésaü à dire non. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je suis élu pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire que je suis choisi pour que j'obéisse et que je tire profit de cette justification qui m'est faite. Hein? Je suis élu pour obéir. Alors, reprenons donc ces passages. L'examen de notre foi, vous voyez ce creuset? C'est intéressant de voir les images que Dieu nous donne, en fait. Si on ne passe pas l'or par le feu, ben ça ne marche pas. Hein, si on ne passe pas l'or au creuset, si on ne le fait pas fondre, ça ne marche pas. Mais je ne sais pas qui est-ce qui a envie d'être passé à la chaleur comme ça. Et donc, je pense qu'on peut-être, pour nous, pour trouver la sérénité, Hélène demandait des caps. Hein, des caps, il y en a 50 000. Mais un cap pour la sérénité, vous pourriez, par exemple, dans les trois clés, dans la colonne de droite, avec la volonté de Dieu, avoir des expressions choc. Et bien, dans la colonne de droite, c'est « aimez-vous passer les examens ». La réponse, c'est non. Je ne sais pas qui est-ce qui aime passer les examens. Mon grand-père était quelqu'un qui aimait aller à l'hôpital. Alors, on lui faisait vous savez, pour contrôler l'estomac, on entube. Eh bien, il aimait passer les examens. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Hein, voilà, il aimait qu'on s'occupe de lui, etc. Bon, moi, j'aime pas trop. Hein? Tu aimes bien, toi, Chan? Oui. Ben... un lieu de repos. Bon, d'accord. Et donc, voilà une phrase choc. Hein? Deuxième phrase choc, c'est donc se représenter Jésus-Christ comme juge. Et si quelqu'un en veut vraiment, si un chrétien en veut à un autre chrétien, mais quand on se représente Jésus-Christ sur la croix qui a payé pour ça, c'est impossible que ça reste. Le problème, c'est qu'on ne se représente pas Jésus-Christ comme juge, en fait. Troisième phrase choc, le courage de faire une liste de souffrances. Autrement dit, à un moment donné, Dieu nous demande, hein, si vous souffrez pour la justice, alors vous êtes bien heureux. Mais que personne ne souffre, nous dit Pierre, 1 Pierre 3,17, en faisant le mal. Hein, le courage de faire une liste de souffrances. Quatrième phrase choc.
Tout ce qui a de la valeur coûte.
Vous la connaissez déjà. Et parce que finalement, la vie que Dieu construit est une vie riche qui coûte.
Mais je pense que si on se représentait à quel point nous sommes riches, si on se représentait à quel point nous sommes riches, on comprendrait bien que la souffrance de la vie est une souffrance relative. Alors c'est un peu scandaleux ce que je dis, hein. Mais si on se représentait à quel point Dieu est souverain, je crois qu'on accepterait mieux d'être malade. On accepterait mieux d'être seul. On accepterait mieux d'être dans une situation inconfortable. Dieu est souverain.
Et puis, dernière phrase choc, c'est « la vie est courte ».
Quand vous aurez souffert un peu de temps. Moi, je ne sais pas comment vous le vivez, mais j'ai 51 ans, la vie est courte. J'ai l'impression que ma trentaine d'années de vie d'adulte, ouf, elle a passé très vite, en fait. Mais je suis très heureux, hein, d'avoir vécu ces 30 ans de vie d'adulte. Mais en attendant, waouh, je me dis, voilà, grosso modo, il ne reste plus que 30 ans, quoi. Hein? La vie est courte. Il ne reste plus que 30 ans dans une vie, comme dit Moïse dans le psaume 90. Hein? Hein? C'est-à-dire qu'on est dans la vie éternelle. Voilà. Donc, si on se dit que la vie est courte, si on regarde vraiment au but, alors on n'est pas découragé. Quand on peut avoir ces réalités en nous, hein, recevant de l'épître de Pierre, recevant de la personne de Pierre, des exhortations très, très précises, très fortes. Hein, voilà, on souffre pour l'épreuve de notre foi, on souffre le Seigneur nous ayant devancé, nous donnant des moyens. On souffre pour une cause juste, on souffre en tant que chrétien, on souffre pour un peu de temps. Voilà un résumé des 5 chapitres. Alors, si je me pose quelques questions, par exemple, est-ce que je peux être serein une fois pour toutes? Ben, la réponse, c'est non. La sérénité, c'est comme la paix. La paix, on a vu que c'est une dynamique, en fait. Quelque chose qu'il faut tout le temps entretenir. La paix avec quelqu'un. Mais la sérénité à l'égard des circonstances. Donc là, sur cette conclusion... Attends. Sur cette conclusion, vous avez compris que c'est chapitre 1, chapitre 2, 3, 4, 5. C'est bon ? Hein, voilà. Donc, pourquoi je ne peux pas être serein une fois pour toutes ? C'est parce qu'en fait, j'ai continuellement à retrouver la sérénité. Hein? Journellement, en fait, par exemple, quelqu'un me dit, moi, je suis stressé. C'est quelqu'un qui ne trouve pas la sérénité. Un chrétien ne devrait jamais être stressé. Dieu nous donne des choses à faire, ni trop, ni trop peu, sinon il n'est pas souverain, juste. Donc, c'est nous qui nous stressons, c'est pas nous qui sommes stressés, c'est nous qui nous stressons. Et on dit, ah mais moi, de toute façon, dans ma famille, on est tous stressés. Voilà. Donc, la sérénité est à trouver continuellement. Voilà. Si jamais je suis stérile, si ce que je fais ne produit pas, bah, Dieu est souverain. Hein? Ah, je vais évangéliser. Ça fait 30 ans que j'évangélise, je n'ai pas vu un seul converti. Pourtant, je n'arrête pas de me remettre en question, de réadapter mon message. Bon, Et Dieu est souverain. C'est ce que je viens de dire. C'est bien de le faire, de se remettre en question. Je n'arrête pas de me remettre en question.
C'est bien. Hein? Mais si j'ai pas de fruits, ben j'ai pas de fruits, en fait. Il a fait combien de disciples, Jésus?
Et pourcentage de réussite? Il y en a un qui l'a vendu. Il y en a un qui l'a renié. Il y en a un qui a douté.
On est d'accord? Il y en a 70 qui se sont, etc.
Mais dès que Jésus est parti, il y a eu combien de conversions? 3000. C'est pour ça que...
Hein? Il faut quand même faire attention à ne pas être dans le résultat. Ça, c'est tout nouveau, ce que je vous dis à l'instant. Hein? Hein? Voilà.
Quelle est la différence entre la sérénité et l'insouciance? Eh bien, l'insouciance, elle est irresponsable.
La sérénité, elle est responsable. Je fais face à la circonstance difficile et je réagis.
Que faire des vautours? Oh ben, il faut les laisser voler. Hein? Voilà, les vautours rôdent.
Hein, c'est les charognards.
Voilà. Ça sonne, il faut qu'on s'arrête. Hein, que faire des vautours? Ben voilà. Que faire des gens qui pratiquent l'injustice et qui font du mal?
Ben, les laisser.
Que faire du drame d'un proche, l'irréparable ou son propre drame?
Eh bien, il faut le vivre. Il faut pleurer. Il faut mener deuil. Il faut vivre la tristesse. Il faut vivre la colère.
Mais la sérénité se trouve. Comment être serein et compatir?
Si on est tellement serein qu'après on ne peut plus compatir avec quelqu'un qui est dans la difficulté,
c'est qu'à ce compte-là, on perd de la tristesse. On peut très bien être serein et triste. On peut très bien être serein et en colère, mais pas serein et fébrile. Est-ce que je peux être serein face aux obsessions?
Ben,
je peux être serein qu'effectivement, Dieu m'appelle à sortir de l'obsession.
Quand est-ce que je vais en sortir? Je ne sais pas.
En ce moment, j'accompagne quelqu'un qui a des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Il faudra qu'on en parle. Je ne sais pas si on a prévu d'en parler pendant un temps. J'ai noté.
Très bien.
Donc, il faut du temps pour sortir des TOC. Il faut travailler et on verra comment travailler justement avec tout ça.